Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nassim a 19 ans, il vit à Creil et a recommandé à Franck Ferrand la lecture d'une biographie de Frank Sinatra parue chez Perrin. Bonjour Franck.
À quel Franck parlez-vous? Bonjour Céline, bonjour à tous. Je vous propose de commencer par nous remettre dans l'oreille une des voix les plus caressantes du dernier siècle.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin.
La biographie que me conseille Nassim est de Georges Ayache et s'intitule Frank Sinatra, la voix de l'Amérique. Je suis très heureux de pouvoir accueillir parmi nous son auteur cet après-midi.
Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Thibaut sur l'origine du parapluie.
Mais tout au moins, j'essaierai de répondre à Thibaut le plus précisément possible cette saison, vous me direz.
Oui,
hein, ça va tout à fait avec le temps. Pour le moment, j'aimerais vous raconter l'incroyable histoire du rapt du fils de l'homme à la voix d'or, Frank Sinatra Jr.
Repin au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes le dimanche 8 décembre 1963. Oh, il ne faut pas être un as en histoire pour comprendre que cette date a été complètement occultée par une autre, puisqu'on est quelques jours seulement après l'assassinat du président Kennedy. Rappelez-vous, la mort de Kennedy, c'était le 22 novembre 1963, et là, on est donc le 8 décembre. On est au bord d'un endroit que j'aime beaucoup, le lac Tahoe. On est à la frontière entre la Californie et le Nevada, pas très loin de Las Vegas. On est à 1900 mètres d'altitude, dans ce qui est une petite station de sport d'hiver, à Stateline, très précisément. Frank Sinatra Jr., nous parlons bien là du fils du grand chanteur, un gamin, j'allais dire, de 19 ans. Frank Sinatra Jr., j'ai presque envie de l'appeler Junior, ça simplifierait les choses, loge au Harrah's Club, qui est un casino où il donne toute une série de concerts avec Sam Donahue pour le Tommy Dorsey Band. C'est le nom de leur petit groupe. Évidemment, quand on s'appelle Frank Sinatra Jr., ça fait bien sur les affiches, vous imaginez. D'ailleurs, en l'occurrence, le nom de l'artiste, bien que ce ne soit pas lui-même un très grand chanteur, son nom apparaît en lettres lumineuses sur la devanture du casino. À la limite, je me demande même si on n'a pas débranché les deux lettres J et R pour ne plus lire que Frank Sinatra. Voyez, on est un peu dans ce genre d'appel. L'hôtel dont je parle est quand même une tour de 18 étages qui comporte plus de 500 chambres. N'oubliez pas qu'on est aux États-Unis, hein, quand même. Tout est un peu démesuré. Imaginez que ce soir-là, le blizzard commence à souffler dangereusement. Nous sommes au mois de décembre. Alors, Frankie, comme tout le monde l'appelle, le fils donc de Sinatra, est en train de terminer de dîner dans sa chambre, au numéro 417, avec un ami, le trompettiste John Foss. Ils vont bientôt monter sur scène. Ils sont en train de prendre un encas, comme font tous les artistes surtout les artistes qui chantent un peu tard, avant de monter sur scène. On va dire qu'aux alentours de 21h, le téléphone sonne, Frankie décroche. Allô, j'écoute ? Oh pardon, c'est une erreur, et ça raccroche. Bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais Frankie ne s'étonne pas vraiment, parce qu'il a l'habitude des fans au comportement étrange. Vous comprenez bien sûr pourquoi a eu lieu ce coup de téléphone, vous allez le comprendre en tout cas dans les minutes qui viennent. Pas très longtemps, on va dire peut-être 2-3 minutes plus tard, on frappe à la porte de la suite. Service d'étage ! Alors le jeune chanteur répond « Entrez !» Et là, ce n'est pas un serveur, ce n'est même pas une femme de ménage qui entre. Ce sont deux hommes, dont l'un est armé d'un petit revolver, un P38. Il pointe son arme sur la poitrine de Sinatra Junior, qui est en robe de chambre. Il n'était pas encore, il n'avait pas encore mis son costume de scène. On lui commande de s'habiller chaudement et sans faire d'écart, sans s'écarter bien entendu de l'arme. Il n'a le temps d'enfiler en fait qu'un t-shirt, un pantalon, il met sa parka, des mocassins, il n'a même pas trouvé ses chaussettes. Il est assez gelé pour tout vous dire. Et pendant ce temps-là, le complice de celui qui est armé est en train de ligoter le copain Foss, qui se retrouve ventre à terre, ligoté, on lui bande même les yeux avec du sparadrap. Et voilà les deux ravisseurs qui maintenant embarquent Sinatra Junior vers la sortie. Ils ont une voiture, une Chevrolet blanche, modèle Impala 1963. Ça aussi, ça fait partie, on a envie de dire, tout ça est assez cousu de fil blanc finalement. Le moteur de la voiture a tourné pendant toute l'opération, il tourne depuis le début. Le revolver est toujours braqué sur Frankie. L'un des ravisseurs lui ordonne de s'installer sur la banquette arrière et de s'allonger. On lui bande les yeux, à lui aussi, et voilà la voiture qui fonce dans le blizzard, c'est le cas de le dire. La Chevrolet disparaît dans la nuit, une nuit qu'il faut imaginer neigeuse et blanche. La police est alertée assez vite parce que on peut pas dire que Foss ait été tellement bien ficelé. Il se libère assez facilement de ses liens et bien sûr il prévient immédiatement l'hôtel et la police. L'agresseur, celui qui l'a ficelé, devait vraiment pas être un as puisque ça s'est fait très très vite. La police est donc prévenue, des barrages sont immédiatement disséminés un peu partout autour de la ville de Staten Island. À 21h40, l'auxiliaire de police de la route du Nevada à Carson City informe le FBI de la situation. Je cite le bulletin. « Le bureau du shérif du comté de Douglas communique que Frank Sinatra Jr. a été kidnappé à la résidence du Harrah's Club il y a environ une demi-heure. Il est question de deux hommes. Ils l'ont emmené en voiture. On est en train d'établir des barrages. » On peut pas être plus... À la limite, je vous aurais lu ce bulletin. Ça m'aurait évité tout le début de ce récit. Il n'y a pas encore de description précise des deux hommes ni de leur véhicule. Ils ont quand même de la chance. On peut dire que tout est de leur côté ce soir-là, puisque certes la ville est encerclée par la police, il faut trouver un moyen de passer les barrages, mais quand les ravisseurs aperçoivent au loin les phares des voitures de police, ils se rangent sur le côté, ils sont environ, là à ce moment-là, ils sont même pas un kilomètre, hein, ils sont à 500 mètres de distance. On débande les yeux de Sinatra Junior, on lui ordonne de s'asseoir en faisant semblant de dormir. Le passager avant sort de la voiture, il se cache derrière le remblai qui borde la route et au passage, d'ailleurs, il se prend les pieds dans un fil de fer, il va s'écrouler, il est sonné par sa chute, il va même rester inconscient quelques instants. La police a aperçu la voiture, on envoie une patrouille à la rencontre du conducteur qui fait mine d'être là pour harnacher ses roues, hein, et de mettre les chaînes de montagne sur ses pneus. Il a pris soin de jeter son arme de l'autre côté du remblai. Alors vous allez me dire, mais à ce moment-là, Frankie va se manifester. L'homme qui vient d'être kidnappé va expliquer ce qui se passe à la police. Et non, parce qu'on l'a menacé de représailles extrêmement sanglantes s'il dirait quoi que ce soit. C'est quand même un peu louche cette histoire, mais en tout cas, Frank Sinatra Jr. ne dira rien. Il imagine encore, il faut vous dire qu'il s'agit d'un contrôle de routine. Il ne peut pas du tout deviner que Foss a réussi à se libérer, qu'il a eu le temps de prévenir la police, etc. Donc, il reste silencieux pendant que les agents inspectent la voiture, inspection sommaire. Ils ne voient même pas le passager endormi à l'arrière de la Chevrolet.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you.
Sur Europe 1 avec un extrait de Stranger in the Night. Revenons avec vous Franck Ferrand à l'enlèvement de Frank Sinatra Jr.
Alors, le conducteur explique à la police qu'il s'est arrêté pour mettre ses chaînes. Les agents ne cherchent pas plus loin. Ils vont continuer leur route. Ça, c'est, on a l'impression vraiment d'une scène de film. Vous savez, c'est un peu comme à Guignol. On a envie de crier, mais attention, ils sont, non, ils s'en vont, ils repartent. Le passager avant peut maintenant sortir de sa cachette. Il ramasse l'arme. Il franchit à nouveau le remblai et il retrouve son acolyte pour ne pas attirer l'attention. Il va quand même s'installer dans le coffre. Et l'Impala blanche, tout à fait tranquillement, va franchir le barrage de police et filer en direction de la planque qui avait été prévue. Alors, qui sont-ils, ces deux ravisseurs? L'un s'appelle Barry Worthington Keenan. Il a 23 ans. Il est pêcheur au chalut à Los Angeles. C'est lui qui conduit l'Impala et c'est lui qui est entré le premier dans la suite avec l'arme au poing. L'autre s'appelle Joseph Clyde Amsler, il a 23 ans également, c'est vraiment deux jeunes hommes. Il est pêcheur de coquillages, il est aussi boxeur à ses heures perdues. C'est lui qui donc est le passager avant, c'est lui qui s'est trouvé mal au moment de s'enfuir et de franchir le remblai. Ce sont des camarades de classe, ils se sont rencontrés au collège. Deux mois auparavant, Keenan avait énoncé, il avait expliqué tout son plan à trois autres jeunes gens dans un bar de Santa Monica. Pour lui, il s'agissait de faire le coup du siècle, on allait enlever le fils de Sinatra. Amsler a hésité, il voulait réfléchir. Keenan, donc c'est l'homme au pistolet, le commanditaire, il faut imaginer un grand jeune homme blond, aux yeux bleus, à la peau claire, il est diplômé quand même de l'université, il n'aime pas travailler, c'est le moins qu'on puisse dire, il a grandi dans le luxe, d'un drôle de, entre parenthèses, c'est un drôle de loustique. Et il confiera au FBI, « Mon père a été millionnaire, seulement il ne l'est plus ». Fait partie des jeunes gens déclassés qui tournent mal, si vous voulez. Keenan a commis toutes sortes de petits délits en série, a été arrêté pour vol d'essence, il croule sous les dettes. Bref, le kidnapping, lui, est apparu comme la dernière des solutions. Deux mois plus tôt, Keenan a trouvé son premier complice, parce qu'avant de travailler avec Amsler, il en avait un autre de complice, qui s'appelait John Irwin, qui avait 42 ans, lui c'était un peintre en bâtiment. Il n'avait pas l'intention de participer réellement au kidnapping, mais il était prêt à jouer les intermédiaires entre Keenan et la famille Sinatra. Donc, à l'époque, on sait que Sinatra Junior est à l'affiche à Phoenix, à l'occasion de la foire d'État de l'Arizona. On se dit que c'est le moment ou jamais. Alors, il faut imaginer les jeunes ravisseurs qui sont là, qui scrutent les habitudes de Sinatra Junior. Le problème, c'est qu'évidemment, le chanteur est constamment entouré de toute une bande de copains, de musiciens, etc. L'entreprise paraît risquée, tellement risquée que finalement, les ravisseurs vont renoncer à leur projet et le remettre à plus tard. Retour donc à Los Angeles. C'est à ce moment-là que Keenan va recontacter son vieil ami Amsler et le convaincre de se joindre à lui. Pendant quelques jours, ils vont songer à opérer directement à Los Angeles où vit Frankie, où vit le fils de Sinatra. Ils se relaient au bas de chez lui, ils épient ses faits et gestes, ils essaient de voir s'il y a des habitudes, s'il y a des heures récurrentes, vous savez comment on procède. Finalement, ils réalisent qu'une fuite dans une ville de cette ampleur, vous imaginez Los Angeles, sans doute la ville la mieux protégée des États-Unis pour toutes sortes de raisons, ça n'est pas possible. Donc, et puis en plus, il y a une densité de trafic telle que ça risque de ralentir leur course. Finalement, ils se disent qu'ils vont attendre et ils ont bien fait puisque la série de concerts au lac Tahoe, ça c'est beaucoup plus pratique bien entendu. Le 4 décembre, Keenan et Amsler partent pour la petite station d'altitude. Ils louent une chambre d'hôtel sous les faux noms de Robert Allen et Joseph Gardner. Et comme à Los Angeles, comme à Phoenix, bien ils étudient les habitudes de leur prochaine victime. Le 8 décembre, ils se disent que ça ne ce sera pas possible. Ils sont prêts à abandonner leur projet. On les voit faire leurs valises. Et là, au moment où ils s'apprêtent à partir, ils croisent un détective du coin. Ils les interrogent sur la raison de leur présence à State Line. Finalement, les deux acolytes se disent que, quitte à être fait, parce que là, vraiment, ils ont quasiment la police aux trousses, autant passer à l'action. C'est paradoxalement, c'est cette démarche de sécurité, c'est l'attitude du détective qui va les pousser à agir sur les coups de 21h. Donc, ils quittent leur chambre, direction le Harrah's Club. À cette heure-ci, Sinatra doit être dans sa chambre. Il ne va pas trop tarder à monter sur scène. Il faut faire vite. Alors, évidemment, tout se passe un peu comme dans un rêve. Keenan et Amsler ont mis la main sur la poule aux œufs d'or. Ils ont passé aisément les barrages de police, comme je vous le disais. Désormais, ils filent vers la petite maison de Canoga Park qui va leur servir de planque pour les deux jours à venir. Elle se situe, cette maison, dans la vallée de San Fernando, au nord de Los Angeles. Voilà ce que nous dit Andrew Tully, qui a étudié le sujet de près. L'abri, dit-il, est une chaumière de trois pièces. Il y a bien deux matelas dans une des chambres, mais pas de draps. Aux fenêtres, les vitres cassées sont remplacées par des lambeaux d'étoffe verte. Dès l'arrivée au refuge, les deux ravisseurs se montrent pleins de prévenance. Ils permettent à leurs captifs de se promener autour de la maison pour se dégourdir les membres après ce long trajet en voiture. Ils lui donnent ensuite un bandeau pour qu'il puisse s'en recouvrir les yeux afin de dormir et l'installent sur un des matelas de la première chambre. Oh, ils sont pas trop méchants pour l'instant, ces ravisseurs. Quant au troisième homme, rappelez-vous le fameux John Irwin, celui qui était l'intermédiaire ou qui était censé jouer les intermédiaires, eh bien lui a été confiné chez lui, évidemment, il attend des nouvelles de ses complices. Le 9 décembre au matin, il reçoit un coup de fil, et là, Keenan lui confirme que le projet a été mené à bien. Frank Sinatra Jr. est bel et bien à leur merci.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez poser vos questions et réagir tout au long de cette émission sur Frank Sinatra par mail, europe1.fr, Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur le rapt du fils de Frank Sinatra.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à l'enlèvement du fils de Frank Sinatra et à son dénouement.
Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que très peu de temps après le rapt, la mère de Frankie, Nancy Sinatra Barbato, a été avertie, ou elle a été avertie par l'agent d'un des compagnons de son fils, qui était dans une chambre voisine, et c'est elle qui va alerter le personnage de cette émission, c'est-à-dire Frank Sinatra lui-même, qui se trouvait à ce moment-là à Palm Springs. Immédiatement, que fait Sinatra? Alors ça, évidemment, là, on change tout de suite de registre. Hein. Il téléphone au ministre de la Justice, à la tournée générale des États-Unis, qui n'est autre que Bobby Kennedy, bien entendu, et qui lui dit « Je fais tout mon possible, je suis déjà sur le coup, j'ai 148 hommes sur le pied de guerre et il y en aura davantage demain », lui dit Bobby Kennedy. Sinatra immédiatement s'envole pour Reno. Reno, c'est la ville la plus proche hein, de la petite station de sport d'hiver. Et il va rencontrer là des agents du FBI. Pendant ce temps, on met le téléphone de la mère Nancy sur écoute et les agents du FBI assurent la sécurité. Là, il faut imaginer le déploiement de force considérable. Vous savez comment ça se passe dès que les agents fédéraux arrivent quelque part. Dans son hôtel de Reno, Sinatra reçoit un appel du chef du FBI, le célèbre John Edgar Hoover, qui lui conseille de ne parler à personne d'autre que la police. Et évidemment, qu'est-ce qu'on attend? Qu'attendent tous ces spécialistes, tous ces grands policiers? Que les ravisseurs se manifestent. Le 9 décembre, à 16h45, Irwin contacte Sinatra. Quand je dis Sinatra, notre Sinatra, Frank Sinatra, senior si vous voulez. Et là, bien sûr, le FBI enregistre la conversation. Le ravisseur assure que, enfin quand je dis le ravisseur, le complice des ravisseurs, assure que Frankie va bien. Il donne rendez-vous à Frank Sinatra le lendemain à 9h pour un nouvel échange téléphonique. Et effectivement, à 9h05, Irwin téléphone depuis la planque. Il passe Frankie à son père. C'est toujours des moments terribles. Hein. Donc le fils rassure le père sur son état. Le ravisseur immédiatement reprend le combiné. Sinatra veut négocier avec lui, mais il refuse de lui donner le montant de la rançon. Il a l'air nerveux. D'ailleurs, il dit qu'on le recontactera dans quelques heures. C'est à 14h qu'a lieu le troisième échange. Sinatra va devoir rassembler 240 000 dollars. Alors, on précise combien de coupures, hein, combien de billets de chaque montant. Surtout, aucun billet neuf, bien entendu. Pas de série de plus de 8 numéros. Enfin, on connaît ça. Ça ressemble, vous savez, à une mauvaise série policière des années 60. Mais en l'occurrence, nous sommes dans la réalité. Le ravisseur ordonne à Sinatra de rejoindre Nancy chez elle, à Bel Air, en Californie. C'est sa première femme. C'est la mère, donc, de ses enfants, hein, Nancy, Frank Jr. et Tana. Et c'est là qu'il va recevoir le prochain appel. À 21h26, Sinatra doit se rendre à la cabine téléphonique de la station-service située à l'angle de Camden et de Santa Monica Boulevard. Et c'est de là qu'il va apprendre qu'il doit envoyer un homme avec la rançon à l'aéroport international de Los Angeles. « Dites à votre type de prendre comme nom Patrick Henry, le mien sera John Adams », dit Irwin. Patrick Henry, c'était un homme d'État, un grand orateur américain. Hein, et John Adams, c'était le deuxième président des États-Unis. Donc on parle là de personnages historiques. C'est comme si on disait Dupont-Durand, si vous voulez, chez nous. Évidemment, le FBI ne l'entend pas du tout de cette oreille. Hoover propose tout de suite d'envoyer quelqu'un. L'agent se rend à l'aéroport avec la valise de cuir noir contenant la rançon. De là, il reçoit de nouvelles instructions. Il doit se rendre dans une première station-service pour que les ravisseurs l'identifient. L'échange se fera à quelques kilomètres dans une seconde station située près d'un cimetière. Il devra laisser la mallette dans les deux bus de ramassage scolaire qui sont stationnés là, sur le parking. Frankie ne sera relâché que 2 heures plus tard pour laisser le temps au ravisseur de compter le magot, de vérifier que tout va bien et d'avoir pris la fuite, bien entendu. À 0h25, dans la nuit du 11 au 12 décembre, l'agent du FBI dépose les $240,000. Il manque en fait $15. Bon bref, je passe sur les détails. 2h30 plus tard, le policier de Bel Air aperçoit un jeune homme qui fait de l'autostop. Vous avez bien compris, il s'agit de Frank Junior. Il le fait monter dans le coffre pour éviter la horde des journalistes, vous l'imaginez, et on le ramène chez sa mère. En réalité, Frankie n'a pas attendu le retour d'Amsler et Keenan pour quitter la planque. Il a réussi à convaincre Irwin que les deux hommes allaient peut-être essayer de le flouer, de lui voler sa part du gâteau. Et finalement, Irwin s'est dit « mais il a peut-être raison, ce gamin ». Et donc, il a relâché son otage. Il l'a relâché sur la route de San Diego. Et c'est comme ça que Frankie s'est éloigné et a pu se manifester. Le soulagement est général. À partir de ce moment-là, le FBI lance les grandes opérations pour retrouver les ravisseurs. Frankie Sinatra avait les yeux bandés pendant toute la période de sa détention. Donc il n'arrive pas du tout à situer l'emplacement de la planque. Mais une émission de la radio de Los Angeles qu'il a entendue pendant sa captivité lui fait dire qu'il se trouvait sans doute dans les environs de la Cité des Anges. On est déjà, vous savez, le système de la radio aux États-Unis, c'est pas du tout comme chez nous. Enfin, c'est un peu comme c'est devenu chez nous, mais il y a énormément de radios locales qui souvent d'ailleurs reprennent des programmes nationaux. Mais sont des radios très locales, ce qui fait qu'en connaissant un peu les radios, vous pouvez à peu près savoir dans quel quartier vous vous situez. Quand je dis quartier, ce sont de très très grands quartiers, bien entendu. Donc, Frankie a entendu cette radio et il arrive à peu près à situer. Il a également entendu les ravisseurs dire qu'ils se trouvaient à une cinquantaine de kilomètres au nord de Los Angeles. Ils étaient d'une prudence, ces gens-là, c'est formidable. Grâce à toutes ces informations, à la description de la maison faite par l'otage, les agents du FBI, ils sont des centaines sur l'affaire, vont parvenir à localiser très vite la planque. Elle a été louée sous un faux nom, Barry Long, mais la description faite par les propriétaires est exactement celle de Keenan. Toutes ces recherches, finalement, sont inutiles. Puisque c'est Irwin qui va finir par craquer, vous savez, l'espèce d'agent là qui était vraiment pas très doué, entre nous soit dit, et qui va se rendre à la police. Il leur remet une enveloppe contenant sa part de la rançon, c'est-à-dire $50,000, une chevalière gravée des initiales FS. Il explique exactement quel a été son rôle pendant le kidnapping, etc. Et il donne à la police toutes les informations dont elle avait besoin. Évidemment, Keenan et Amsler ne vont pas tarder à être appréhendés. Ils sont mis sous les verrous et leur procès commencera en février 1964. Les ravisseurs, à ce moment-là, vont essayer de... C'est toute leur ligne de défense, ça. Ils vont essayer d'expliquer que tout ça, c'est un coup monté. Sinatra Junior aurait commandé son propre enlèvement. C'était un moyen d'abord de blanchir de l'argent, ensuite surtout de lancer sa carrière, etc. C'était un coup de pub, si vous voulez. Inutile de vous dire que ni les juges, ni les parties adverses ne se laisseront convaincre. Le 26, l'accusation présente une lettre de Keenan retrouvée dans un coffre qu'il louait à la banque. Sa lettre est destinée à ses chers parents et vous tous que j'aime, voyez le genre. Et voilà ce qui est écrit. Si cette lettre parvient sous vos yeux, c'est que je suis mort ou que j'ai été arrêté pour enlèvement criminel. Je me suis rendu compte que j'étais incapable de gagner assez d'argent pour régler mes dettes et faire face à mon train de vie. Aussi ai-je décidé de courir un risque soigneusement calculé en m'engageant dans une entreprise criminelle d'envergure. Si je réussis, je ramasserai à peu près 100 000 dollars. Du côté galette, c'est le kidnapping qui semble présenter le moins de risques. Ben ça s'appelle quasiment des aveux, et en plus des aveux qui avaient été écrits avant même le crime, vous imaginez ? Le 7 mars 1964, le jugement est rendu. On retient 6 chefs d'accusation contre Keenan et Amsler, 5 seulement contre Irwin. Keenan et Amsler sont condamnés à 25 ans de prison, plus 5 ans de liberté surveillée. Évidemment, aux États-Unis, on ne plaisante pas avec ce genre de choses. Bonjour Georges Ayash.
Bonjour.
Je ne vous ai pas fait venir évidemment pour vous parler du kidnapping du fils de Sinatra. C'est du père que nous allons parler maintenant en votre compagnie.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est Franck Sinatra qui est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Georges Ayash, avocat et auteur de Franck Sinatra, La Voix de l'Amérique aux éditions Perrin.
Alors, Maître Ayash, ce procès a été vite réglé parce qu'en fait, semble-t-il, il n'y avait pas tellement de mystère, contrairement à ce qu'a dit la presse. D'ailleurs, vous-même, vous consacrez à l'affaire très peu de pages de votre ouvrage, il faut le dire.
Oui, c'était mineur dans le cadre de la vie de Sinatra lui-même et l'issue ne faisait pas de doute parce que c'était, comme vous l'avez très bien exposé, un coup monté et la ligne de défense était très faible. Ça ne pouvait pas être un coup de pub de Frank Junior.
C'est-à-dire que les ravisseurs n'ont pas été doués dans la préparation de leur coup de force. Ils ont été calamiteux dans sa réalisation et épouvantables dans leur défense. Bref, il y a pas. C'était vraiment des petits amateurs.
Amateurisme total. Oui.
Ouais, c'est ça. Alors néanmoins, cette affaire a fait les gros titres pour deux raisons. D'abord parce qu'elle rappelait, toute proportion gardée, la très célèbre affaire du rap du bébé Lindbergh, qui a été le plus célèbre fait divers de l'histoire des États-Unis, qui donc a profondément marqué la société américaine. Et puis aussi, disons-le, parce que ça permettait de lever un petit coin du voile sur les activités assez louches de Papa Sinatra. Car, quelle que soit l'admiration qu'on puisse porter à l'artiste, évidemment, depuis l'époque, hein, c'est-à-dire de son vivant et au plein cœur de sa carrière, on s'est toujours posé des questions sur ses relations, notamment avec le milieu.
Et d'ailleurs, cette relation vient même interférer dans le rapt de son fils, puisqu'il était tellement désemparé qu'il faisait appel à tout le monde.
Compris à ses copains.
Alors oui, mais ses copains lui ont proposé, justement, le grand patron de la pègre de Chicago, Sam Giancana, avait proposé de l'aider. Et surtout pas, ne bouge surtout pas, parce que Hoover est déjà en charge, donc c'est pas la peine de mélanger les choses et de raviver un peu de boue là-dessus.
C'est quand même fascinant de voir cette superstar, son fils est kidnappé, c'est pas rien, mais immédiatement, le ministre de la Justice, le célèbre Hoover en personne, enfin tout le monde se met sur le coup. Hein,
c'était d'autant plus méritoire que Bobby Kennedy détestait Sinatra. Il s'était brouillé avec lui, ils avaient eu des mots très très durs.
Quelques jours après la mort de son frère.
Et c'était quelques jours avant son frère, que Bobby Kennedy lui-même était complètement désemparé, et bon, il n'a pas pu faire autrement que de l'aider, puisque c'était finalement une victime dans cette histoire.
Alors, il faut que nous venions au personnage lui-même, et le mieux, c'est de le faire chronologiquement, comme vous faites vous-même, de revenir sur la biographie de Sinatra, et d'abord sur ses origines, qui sont passionnantes, en vérité.
Alors, ce sont des origines italiennes, mais pas comme on pourrait l'imaginer. Sa famille n'était pas d'origine modeste, au contraire, c'était de la moyenne bourgeoisie, qui s'enrichissait progressivement au point d'être relativement à l'aise durant la grande crise des années 30. Donc, ça n'était pas la misère, et lui-même n'était pas un enfant de défavorisé, comme on dirait de nos jours.
Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a un peu cette image-là. On confond peut-être les origines de Sinatra avec celles d'un certain nombre d'autres stars qui sortent du ruisseau. C'est pas son cas, en fait.
Alors, non seulement ça, mais c'est qu'il aura tout fait pour qu'on le croie. Hein. L'homme qui se fait lui-même, le Superman qui émerge par son talent, son génie, etc. Mais ça n'était pas ça. Il a eu une enfance et une adolescence très aisée. Il ne lui manquait de rien. Et c'est par choix qu'il s'est acheminé vers le show business. Comme beaucoup de garçons de son âge, il adorait Bing Crosby et il aimait le mimer devant une glace, à prendre des pauses, etc. Donc ça a été comme ça que sa vocation a débuté.
Ce qui est tout à fait extraordinaire chez Sinatra, c'est ce mélange, évidemment, d'une douceur presque surhumaine et en même temps d'un côté très viril. Ça ne, il ne lâche rien sur ce plan.
C'est ce qui a expliqué qu'il a fait craquer tant de femmes. Oui, voilà. Parce que ce mélange de faiblesse, de vulnérabilité d'un côté et ce côté voyou de l'autre était un mélange très étonnant.
Je vous propose d'entendre un peu Frank Sinatra chanter quand même, parce que j'allais dire nous sommes un peu là pour ça aussi, évidemment.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near.
Fly with me. Il chantait pour les femmes, Sinatra, et j'ai presque envie de dire, d'abord, il chantait pour une femme. Ce que vous nous montrez, c'est l'importance de sa mère.
C'est sa mère qui a compté le plus pour lui, et il envisageait les femmes à travers sa mère. Et finalement, il chantait et réussissait pour faire plaisir à sa mère.
Est-ce qu'on peut dire qu'Ava Gardner est un peu une sorte de version sublimée, idéale de sa mère ?
Exactement, la version sublimée. Elle se ressemblait beaucoup de caractère. Autant la mère détestait toutes les femmes de Sinatra, évidemment, bonne femme méditerranéenne, mère méditerranéenne, autant elle s'est entendue immédiatement avec Ava Gardner. Ouais. Elles avaient le même tempérament volcanique, elles avaient le même langage grossier, d'une grossièreté invraisemblable. Donc elles se sont entendues comme la renfoire immédiatement.
Comment Frank Sinatra commence-t-il dans la carrière ? Comment est-ce qu'il arrive dans ce monde et dans ce milieu ?
Il ne faut pas croire qu'il est arrivé immédiatement comme ça et qu'il a percé par son talent qui était réel. Il a mis une bonne dizaine d'années à faire des boîtes anonymes, à avoir même des emplois à la limite humiliants, puisqu'il servait à table, il poussait la chansonnette entre deux plats, etc. Donc ça n'était pas très valorisant jusqu'au moment où quelqu'un entend sa voix à la radio, et cette voix déjà était tellement fabuleuse qu'il a intégré un orchestre, puis un deuxième, et puis le grand orchestre de Tommy Dorsey, qui l'a mis en valeur sur le plan national.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dimension, une fibre artistique, une dimension artistique chez lui, ou c'est un pur interprète, une marionnette ?
Ah non, il y a une dimension artistique, parce que ses textes, il les vit. Il misait tout sur les textes. D'abord, la chanson, la musique est importante pour lui, mais pas autant que le texte qu'il comprend, qu'il ressent, qu'il fait vivre au spectateur. Et c'est pour ça que c'est une véritable histoire, une véritable dramatique à chaque fois. Surtout lorsqu'il chantera des chansons d'amour déçues, etc. Là, ça, il atteindra même des côtés pathétiques. Et c'est avant tout un homme de texte.
Mais qui ne négligeait pas la musique, loin de là, et notamment pas la mélodie. C'est un mélodiste.
C'est un mélodiste qui ne savait pas lire la musique. Il ne savait pas lire une note de musique, mais il avait ça dans le sang. Alors on le voit sur des photos avec des partitions à la main, mais bon, c'est vraiment pour la galerie.
C'est-à-dire, on le voit sur des photos faire à peu près tout et n'importe quoi, oui. Puisqu'il a été photographié presque chaque heure de sa vie.
C'est un des hommes les plus photographiés de son temps, oui, très, très certainement. Les plus écoutés de son temps et les plus photographiés de son temps.
C'est inouï, ça. C'est... Ouais. Cette capacité à fabriquer sa propre légende, en fait, ça c'est étonnant. Ça suppose trois choses, je crois. D'abord, être capable d'intégrer les plus hauts milieux. Les relations de Frank Sinatra, c'est une chose inouïe. Il y a des gens qui ont ce don, hein, cette capacité à devenir très vite l'ami des puissants, si je puis dire.
Il avait ce bagou qu'il héritait de sa mère, d'ailleurs. Sa mère avait un bagou exceptionnel. Elle fréquentait tout le monde. Elle n'avait pas froid aux yeux. C'était une pétroleuse du Parti démocrate, hein, en son temps. Vraiment, c'était une pure et dure. Et donc, elle frayait avec tout le monde. Elle était impressionnée par personne. Et je crois qu'elle a transmis ça à son fils, oui. Qui finalement a connu une douzaine presque de présidents américains.
Ah oui.
Il a
connu, c'est à titre personnel. Ouais,
il a pris le thé avec Roosevelt, il a partagé ses femmes avec Kennedy, il a dansé avec Nancy Reagan, il était invité à déjeuner par Clinton. Je veux dire, il a couvert un demi-siècle d'histoire.
Oui, il était devenu une sorte d'ambassadeur. Vous parlez de Nancy Reagan, c'est vrai que moi, ceux-là sont des souvenirs un peu de lointains, mais du temps de la présidence Reagan, à chaque fois qu'il y avait une grande solennité, etc., c'était Frank Sinatra qui poussait la chansonnette.
Ah, c'était Sinatra parce qu'elle avait...
On avait l'impression qu'il avait sa chambre à la Maison Blanche.
Ah, oui, mais elle avait un tel engouement pour Sinatra que certains se posaient des questions, mais à l'âge qu'ils avaient l'un et l'autre, bon, c'était des questions tout à fait platoniques. Mais en tout cas, ça énervait fort le président Reagan. Parce que quand Nancy passait pour la 50e fois en une journée Stranger in the Night, lui, il craquait, hein, littéralement. Il se dit qu'il va passer par la fenêtre.
Alors ça, c'est cette capacité donc à intégrer tous les milieux. La deuxième capacité, c'est se montrer disponible, présent, un peu partout à la fois. Il y a presque un don d'ubiquité chez
oui,
Sinatra.
Doublé de professionnalisme. C'est un très grand professionnel, à la fois sur les enregistrements, sur la façon d'être en scène et la façon d'être dans l'après-scène. Donc il ne refusait jamais une interview, il se montrait toujours effectivement, comme vous le disiez, disponible. Et là, c'est quand même une caractéristique qu'on ne retrouve pas chez les artistes de son temps.
Et la troisième, le troisième atout, je dirais, de ce bonhomme, c'est un charisme absolument inouï.
Ouais. Il était malingre, il avait l'air d'un petit chat crevé,
ouais, c'est ça,
il était décrit
quand
comme ça, mais dès qu'il pénétrait dans une pièce, on ne regardait que lui.
Ça, c'est quand même
donc
étrange,
c'est de la présence, ça s'explique pas, il n'avait même pas le côté physique pour imposer cette présence-là, mais elle existait.
Ouais. Et cette présence, elle comptait peut-être au moins autant que sa voix, finalement.
Ouais, certainement, très certainement.
J'ai le souvenir d'un concert qu'il a donné il n'y a pas si longtemps à Paris, le tout dernier concert. Alors moi, je n'y étais pas, mais j'ai beaucoup d'amis qui s'y trouvaient, qui m'ont dit que la voix était épouvantable, mais la présence était toujours magique.
La présence était là, en effet. On le voyait à la fin comme on visitait un musée. Là, il n'avait plus de voix, il oubliait ses textes. Bon, c'était pathétique, mais c'était lui.
En quelle année est-ce qu'il a disparu?
Il a disparu en 98.
Oui.
Le 14 mai 98, et il avait 83 ans. Il y a vécu juste après Dean Martin, qui était mort en 95, lui. Et donc, c'est son grand ami.
Il avait fait, somme toute, la traversée du siècle, on peut le dire.
Il a traversé le siècle. Il est né pendant la guerre de 14, en 1915. Il est mort 3 ans avant le 11 septembre. Vraiment, le 20e siècle, il l'a balayé de son talent.
Alors, il a connu, vous nous dites, une douzaine de présidents américains. Ce qu'il a connu aussi, ce sont tous les grands artistes. Le nombre de duos, etc., c'est incroyable. Y compris des artistes de musique classique, du reste.
Alors, il adorait la musique classique, ce qui ne se sait pas et ce qu'il ne cherchait pas à mettre en avant. Hein, mais on découvrit à sa mort qu'il avait le tiers de sa discothèque consacrée à Vivaldi, Beethoven et Bach. Hein. Donc, ce qui est quand même...
Le côté italien, peut-être un peu, ça, non?
Probablement, il aimait les grands chanteurs italiens. Ça, c'est d'où avec Pavarotti et la connivence qu'il a eue à la fin.
Eh bien, écoutons-les si vous voulez.
And now the end is near, and so I face that final curtain, my friend. I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through. Without exemption, I'd planned each charted course, each curve and stair along the byway, and more, much, much more. I did it my way. When I be more than I could.
Sinatra et Pavarotti sur Europe 1 avec My Way. C'est Frank Sinatra qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, Georges Ayache, qui est avocat et auteur de Frank Sinatra, La Voix de l'Amérique, aux éditions Perrin.
Oui, une grande biographie, un peu comme on pourrait consacrer à un chef de guerre ou à un homme politique. Et là, c'est un artiste, mais qui était bien plus qu'un artiste, Georges Ayache. Hein, c'est ça,
il
l'histoire.
Il était multifacette, il était à la fois politique, il était un homme du show business, il était un homme public à tous égards.
Il était un homme à femme, ne l'oublions pas.
Et il était un homme à femme, il a défrayé toutes les chroniques possibles,
alors,
imaginables à ce sujet.
Faisons la liste de ces femmes. J'ai parlé tout à l'heure de Nancy Barbato, oui. qui est sa femme, on va dire.
Sa femme légale.
Oui, voilà.
L'une des quatre femmes légales qu'il est.
La première. Et la mère de ses enfants, donc.
Et la mère de tous ses enfants, oui. Enfin, ses enfants reconnus, en tout cas.
Dont le fameux Frankie. Est-ce qu'il est devenu, alors, ce chanteur?
Il a essayé de chanter. Il avait une voix quelconque, donc il n'a pas percé. Ensuite, il est devenu le chef d'orchestre de son père sur la fin. Et puis après, bon, il s'est retiré parce qu'il n'avait pas un talent particulier. C'est le drame des enfants de gens très très connus. Il avait ce handicap du nom. Et puis ensuite, bon, il n'avait pas le talent de son père. C'est évident, parce qu'un talent comme ça, il se transmet pas nécessairement d'une génération à l'autre.
Oui, il avait le nom, mais pas le talent.
Ouais, malheureusement pour lui.
Ça doit être d'autant plus difficile lorsqu'on est le fils de la plus célèbre, enfin l'une des plus grandes stars de la planète. De porter le même prénom et le même nom,
oui,
c'est compliqué.
Le même prénom, là, c'est un grave son.
Ça ressemble à un défi d'une certaine manière.
Oui, c'est un défi, il a malheureusement pas su le relever.
Alors, évidemment, celle dont on a déjà prononcé deux fois le nom dans cette émission, celle avec laquelle Sinatra aura composé le couple mythique par essence, c'est Ava Gardner.
Oui, c'était la femme de sa vie. Très, 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 très certainement. Ça n'a pas duré très longtemps entre eux, mais 30 ans après, ils le regrettaient l'un et l'autre, probablement. Parce que c'était le plus beau moment de leur vie, à l'un et à l'autre.
Mais alors, une relation houleuse, complexe.
Ah, mais ça, ils ne pouvaient pas rester l'un sans l'autre, mais ils ne pouvaient pas rester l'un avec l'autre plus d'une journée, quoi. Sans se taper dessus, sans que la vaisselle vole en éclats, etc. Des cris épouvantables. Non, c'était tellement explosif. Ils se ressemblaient tellement quelque part qu'il était impossible qu'ils restent ensemble très longtemps.
Comment expliquer cette espèce de jeu de chat et de la souris comme ça, permanent
Il y a aussi les circonstances de leur rencontre. Hein. Au moment où ils se rencontrent, Sinatra est en train de vivre un creux.
On est en 51.
Voilà, un creux épouvantable. Il était monté au pinacle du showbiz au début des années 40, et là, il était au 36e dessous.
Alors ça, c'est intéressant. On va continuer sur les femmes, mais j'ouvre une parenthèse passionnante. Il ne faudrait surtout pas croire que cette vie n'est qu'un long fleuve tranquille. Non, hein. Il y a eu beaucoup de crises, il y a eu des passages à vide, il y a eu des ravins même, si je puis dire, sur la route.
Là, c'était le ravin. C'était le ravin. Plus personne ne voulait de lui. Il chantait dans des salles où il y avait 10 personnes. C'était vraiment dramatique pour lui. Dans la rue, plus personne ne le reconnaissait. Sammy Davis était témoin de Sinatra se promenant sur Broadway et personne ne venait l'accoster alors qu'il y avait 10 000 fans dans les années 40 qui venaient s'accrocher à lui. Donc pour lui, ça a dû être terrible. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Ava Gardner. Et Ava Gardner est-elle sur une pente ascendante? Elle commence à être connue, elle a un charisme elle aussi.
Phénoménal.
et donc ça marche sur ce plan-là tous les deux. Mais autant Ava Gardner se sent très bien cette situation, autant Sinatra ne peut pas, lui le macho italien, se retrouver en position d'infériorité à ce point-là par rapport à Ava Gardner.
Qui c'est le type à côté d'Ava Gardner?
Voilà, c'est exactement ça. Donc à partir de là, tout son problème c'est de se refaire. Et elle l'aide d'ailleurs, elle essaye de proposer des services gratuitement pour qu'on l'engage, mais rien n'y fait jusqu'à ce fameux film qui le refera décoller, c'est tant qu'il y aura des hommes.
Et voilà. Ça va être le...
Alors là c'est un film dont personne ne voulait.
Le tremplin.
Ni le metteur en scène, ni le producteur, etc. Ils ne voulaient pas d'un type aussi malin qui savait pas à leurs yeux jouer la comédie. Et finalement, il a eu des petits coups de pouce pour le faire avoir le rôle, non seulement d'Ava Gardner, mais de ses amis de la mafia. Et c'est une scène d'ailleurs qui est racontée sous une forme allégorique dans Le Parrain, où avec la tête de cheval qui se retrouve dans le lit du producteur, etc. Bon, là, il n'y a pas eu de tête de cheval, mais il y a eu des pressions quand même très 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 fortes pour que le producteur Harry Cohn, qui était lui-même en lien avec la mafia d'ailleurs, l'engage. Et bien lui a pris puisqu'il a eu l'Oscar du second rôle à la fin.
Oui, ça a été quand même, là on est au sommet de, non seulement de la carrière, mais de la vie. de Frank Sinatra, probablement.
Ça symbolise ça. C'est le moment du nouveau départ. Le rebond est tout à fait extraordinaire. Et surtout dans l'imaginaire américain, un type qui se refait le comeback.
Magnifique. Il revient bien plus fort encore.
Bien plus fort encore, c'est la légende. Et sur ce, on lui compose des chansons qui lui permettent de rebondir là aussi. Et là, bon, tout repart.
Avec Ava, ça ne...
Et c'est là où Ava, ça ne marche plus. Voilà. Justement, parce qu'il se montre jaloux, ce qui n'a jamais été de sa vie. Elle lui préfère les toreros espagnols. Elle en a fait une collection. Et elle menait une vie d'homme avant la lettre. Je veux dire, ce qui maintenant...
C'est une liberté incroyable.
Voilà, ce qui maintenant paraîtrait à peu près normal. À l'époque, ça a choqué, mais elle n'avait rien à faire. Elle menait sa vie comme elle l'entendait.
Et lui aussi, bien entendu.
Alors lui a essayé de suivre, et puis il a laissé tomber à un moment donné.
Alors là, on est dans une période un peu chaotique quand même pour Frank Sinatra, notamment sur un plan sentimental. Il va collectionner les aventures et les liaisons. Et la presse, bien entendu, se fait l'écho de la moindre rencontre.
Alors il avait collectionné déjà avant Ava Gardner, oui. Puisque finalement, celle qui lui a présenté Ava Gardner, c'était Lana Turner, qui elle-même était déjà très 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 connue. Et
plus tard, il sera avec Mia Farrow aussi.
Alors plus tard, il sera avec Mia Farrow, mais alors là, la différence de génération était telle que c'était sans espoir. On se demande d'ailleurs pourquoi Sinatra a été se mettre dans une situation pareille, parce qu'elle ne correspondait pas vraiment à son type de femme. Sur le plan caractère, c'est pas du tout compatible. Sur le plan politique même, c'était une gauchiste, hippie, etc. Alors que lui devenait un conservateur bontain. Donc rien n'était fait pour qu'ils restent ensemble, et de fait, ils sont restés un an et demi.
La dernière épouse, c'est Barbara Marx. On rentre un peu dans le rang, si je puis dire.
Alors, c'est la femme des vieux jours. Là, il se rend. C'était l'ancienne femme de Harpo, de Zeppo Marx, oui. Le moins connu des Marx Brothers. Mm-hmm. Et bon, c'était une femme par accro, je veux dire, par accident, mais qui s'est occupée de lui sur les dernières années de sa vie. C'est sur ce plan-là, elle a répondu à. Mais il avait connu un sommet quand même sur le plan sentimental. C'était le fantasme, l'un des autres fantasmes de sa vie, c'est Jackie Kennedy. Bien sûr. Et une aventure avec elle, qui n'a duré qu'une nuit, mais ça a été ça. Et comme il s'est fait éconduire par Jackie immédiatement après, il s'est rabattu, si je puis dire, sur Barbara, qu'il a épousée trois mois après.
C'est incroyable. En 1976.
C'est ça.
À une époque où Jackie Kennedy était devenue la femme la plus convoitée du monde.
Voilà, Onassis était mort.
Venait juste de mourir, oui.
Sa veuve richissime, puisque c'était le grand problème de Jackie, hein, l'argent.
Est-ce que ça n'a pas été aussi le grand problème de Frank Sinatra? Ou en tout cas la grande question?
La grande question, c'est, je crois que c'était un homme de pouvoir, avant tout. Il a lorgné le pouvoir, il a eu un fantasme sur le pouvoir, et c'est pour ça qu'il s'entendait avec Kennedy, qui lui avait un fantasme sur le show business, c'est sur le paraître. Donc l'un ayant le pouvoir et l'autre ayant... Donc il y avait tout pour les rendre proches, et de fait ils l'ont été.
Vous avez dit il est devenu conservateur, c'est vrai que parti comme sa mère du parti démocrate, il a fini pilier du parti républicain.
Oui, mais presque à son corps défendant. Parce qu'il a aidé beaucoup de présidents à le devenir, à arriver à la Maison Blanche, Kennedy, il avait financé également Truman, Johnson, ça a moins bien marché. Mais il a quand même versé son écho quand il le fallait, mais il était quand même rejeté par tous ses présidents une fois arrivé, parce qu'il n'était pas fréquentable. Ils auraient pu s'aviser pendant la campagne électorale, qu'il ne l'était pas, mais ils s'en avisaient après, à chaque fois. Et donc il était tellement déçu que Nixon l'a accueilli, et donc c'est reparti comme ça.
Je vous avoue que quand j'ai vu que Perrin publiait une biographie de Frank Sinatra signée Georges Ayache, je me suis dit on va parler essentiellement de la mafia. Pas du tout en fait, vous la cantonnez dans son espace qui somme toute, d'après vous, n'a pas été si essentiel que ça.
Je crois qu'il faut, sans nier la réalité de la connexion avec la mafia qui est indiscutable, il faut quand même relativiser. Parce que l'Amérique était une Amérique en blanc et noir pendant des décennies et des décennies. Il ne faut pas oublier que le monde politique était très lié à la mafia. Je ne parle même pas des Kennedy, mais des mairies comme Chicago, comme Boston fonctionnaient avec cette connivence, etc. D'autre part, le show business était investi complètement par la mafia, par le gangstérisme. Donc on ne pouvait pas avoir des contrats...
Vous parlez de tout ça au passé?
Oui, ça se prolonge certainement.
Nous sommes dans une émission d'histoire.
Voilà, c'est une émission d'histoire. Mais c'était particulièrement caricatural. Ce qui fait qu'on retient surtout Sinatra, c'est qu'il avait une appétence pour la mafia. Que les autres n'avaient pas, ils avaient des connexions par nécessité. Lui, c'était par goût, il aimait ça manifestement. Il s'entendait très bien avec les mafiosos et il aurait secrètement rêvé d'en devenir un.
Oui, c'est ça. C'est à ça qu'on répondait bien à son tempérament, à son enfance, à son milieu finalement, d'une certaine manière, probablement à son univers.
Son univers qui était un univers réel, parce que sa mère avait beaucoup fricoté avec la mafia, son père avait ouvert un bar pendant la promission, donc forcément on ne pouvait l'ouvrir qu'avec la protection de la mafia, et donc il connaissait ces gens-là. Et de plus, son père était complètement inexistant, c'était sa mère qui portait la culotte à la maison, donc l'image du père, il l'a eu à travers ces gens de la mafia. Donc il y a une identification immédiate qui a fait que les frontières du bien et du mal ont été brouillées dans sa tête.
Évidemment, une telle carrière se déroulant en partie à Hollywood ne pouvait pas se faire sans le cinéma. On a dit un mot de temps qu'il y aura des hommes. Le cinéma a joué un rôle aussi dans la vie de, dans la carrière de Sinatra.
Il a joué un rôle effectivement, mais peut-être pas aussi important qu'on l'aurait pensé, parce que pour lui c'était la chanson qui prévalait. Mais beaucoup de metteurs en scène ont dit que s'il s'y était investi davantage, il aurait pu arriver encore beaucoup plus haut que ce qu'il est arrivé, même s'il a tourné des films quand même de très haute tenue. Je pense à L'homme au bras d'or en particulier, qui était un très grand rôle qu'il a occupé.
On ne tardera plus à célébrer les 20 ans de sa mort. Est-ce qu'il est toujours aussi populaire, notamment aux États-Unis ?
Oui, tout à fait. Et même dans les jeunes générations, on n'oublie pas qui il était. Il a été vraiment un monument. Chez nous, on n'aurait pas le même sentiment d'appartenance à une.
Mais chez Maurice lui... Chevalier, on a eu Charles Trenet dans un autre registre.
Demandez à des jeunes maintenant qui étaient Maurice Chevalier ou Charles Trenet, ils seront quand même assez flous. Tandis que des jeunes parlant de Sinatra savent toujours qui il est. Ce qui fait la différence.
Mais il est, n'est-ce pas, la voix de l'Amérique. C'est le sous-titre de votre biographie, Georges Ayache, Frank Sinatra, publié chez Perrin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
Sur Frank Sinatra que vous trouverez dans son intégralité en podcast sur europe1.fr. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Thibault sur l'origine du parapluie.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Thibault. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1. Thibault vous demande, pourriez-vous revenir, Franck, sur la façon dont nos ancêtres se protégeaient de la pluie et raconter l'origine du parapluie ?
Eh bien, c'est Jean-Marius. Là, ça va être précis, ma réponse. C'est Jean-Marius qui, en 1710, obtient un monopole royal pour la production pendant 5 ans de parapluies. On avait des ombrelles. C'était les Chinois, d'ailleurs, qui avaient inventé l'ombrelle. Ça s'était peu à peu répandu en Occident. Mais on n'avait pas de parapluies. Vous savez que pendant très longtemps, quand il pleuvait, on mettait juste une capuche. Ce qui fait que lorsque le vêtement était trempé, vous étiez doublement trempé, si je puis dire. Ceux qui vont utiliser le caoutchouc pour imperméabiliser, ce sont les Mayas, les Aztèques, bref, les civilisations précolombiennes de l'Amérique du Sud qui utilisent le caoutchouc. Mais pendant très longtemps, on ne savait pas rendre la toile imperméable. On apprend cela qu'au XVIIe siècle. Le parapluie, donc, devient, un accessoire généralisé. Non, pas encore au XVIIIe siècle, mais au XIXe, oui. Puisque vous connaissez le roi des Français qui en aura fait un accessoire quasiment, c'est devenu presque son attribut, c'était Louis-Philippe, bien entendu.